Bonsoir à vous tous. Je voudrais commencer en répondant à une demande de précision quant à une citation. Bon, la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais dit que Jean Danielou, dans sa simplicité, dans sa manière très franche de parler, exprimait le fait que aimer quelqu'un ne consiste pas à aimer ses idées. Alors voici la citation exacte, elle est tirée d'une sorte de conférence qu'il avait fait en 1968, qui s'appelait Liberté et autorité dans l'Église. Une conférence de 29 pages qui a ensuite été éditée par la paroisse Saint-Pierre du Gros Caillou à Paris. Et dans cette conférence, il se laisse aller à exprimer sa pensée avec beaucoup de simplicité et il affirme. Cette fois-ci, c'est la vraie citation. Je pense que le fait de respecter les personnes ne signifie aucunement que pour autant on doive respecter leurs idées. C'est très bien formulé et ça nous montre la liberté d'esprit avec laquelle nous entrons en dialogue avec des personnes qui ont des idées. Totalement opposé au nôtre ou bien des idées inacceptables. Respecter les personnes ne signifie aucunement que pour autant on doive respecter leurs idées. Alors, ceci étant précisé, je voudrais reprendre la retraite spirituelle de Jean Danielou là où nous l'avions laissé la semaine dernière. Avec une volonté d'y voir une autobiographie. Il va nous parler de lui-même, le cardinal Danielou, mais sans le dire exactement. Et tout d'abord, lorsqu'il nous dit que une des choses que nous devons chercher paisiblement à comprendre de Dieu, c'est sa plénitude, sa totale perfection et sa suffisance. Dieu se suffit à lui-même. Et une des conséquences de cette méditation sur la perfection, la plénitude et la suffisance de la Sainte Trinité, c'est que nous redécouvrons à une nouvelle profondeur comment le message du Seigneur Jésus est un message de la gratuité. Vivre nous-mêmes dans la gratuité, faire les choses gratuitement et avec désintéressement. Comme Dieu est créateur et rédempteur dans la gratuité. C'est toujours intéressant, à la manière de saint Paul, de constater combien la plus haute méditation dogmatique débouche sur une attitude concrète de la vie quotidienne. Faire les choses gratuitement. Ne pas demander d'argent, ne pas demander de récompense, ne pas demander de rétribution, parce que le mystère de Dieu est aussi un mystère de gratuité. Dans le même ordre d'idées, nous allons comprendre ce que signifie cette affirmation souvent entendue, que la contemplation serait reposante. Donc, en quoi la contemplation est-elle reposante? C'est exactement là-dessus que nous avions clôturé la semaine dernière. Il y a quelque chose où notre esprit et notre cœur peuvent se reposer. C'est la perfection de Dieu, la perfection de la Sainte Trinité. Alors que nous souffrons tant de sentir partout les limites, les insuffisances, les imperfections. Eh bien là, c'est vraiment Jean Danielou qui révèle son cœur. Une des choses qui frappait dans sa personnalité, c'était son large sourire, qui reflétait, qui traduisait finalement une vraie, vraie largeur de vue chez Jean Danielou. Ce qu'on appelle, à la suite surtout de saint Thomas d'Aquin dans sa théologie morale, la magnanimité, la grandeur d'âme, ce large sourire qui élargissait son visage, manifestait l'élargissement de ses horizons personnels, les horizons spirituels et intellectuels. Ni petitesse, ni mesquinerie, mais cette grandeur d'âme, cette largeur d'âme. Et Dieu sait que Jean Danielou a souffert pendant sa vie religieuse, pendant sa vie chrétienne, pendant sa vie dans l'Église, de la petitesse et de la mesquinerie, en particulier des responsables religieux, des responsables de son institut religieux et des responsables religieux. Et il y avait chez lui une espèce d'incapacité à concevoir qu'on puisse avoir une attitude si petite, si étroite, si revancharde, jalouse, mesquine. Il reconnaissait qu'il y avait des péchés de cet ordre dans son cœur, mais lorsqu'il était confronté vraiment à de telles attitudes, et des attitudes enracinées dans le tempérament, dans le caractère de ses interlocuteurs, il était avant tout dans l'étonnement. Et voilà comment nous pouvons décrypter cette phrase. Nous nous reposons dans la perfection de Dieu alors que nous souffrons tant de sentir partout les limites, les insuffisances, les imperfections. Le mystère de Dieu qui est vécu comme un mystère d'immensité, mais une immensité bienveillante, généreuse et d'une générosité gratuite, d'une libéralité totale. Voilà comment la perfection de Dieu, au lieu de nous écraser, devient un moment de méditation qui repose, qui fait plus qu'apaiser, qui nous met dans une attitude de détente, parce que nous sommes heureux que Dieu soit Dieu, que Dieu soit parfait, que Dieu soit infini. Nous sommes heureux de la béatitude de la Sainte Trinité. La perspective que Jean Danielou a puisée chez Saint Grégoire de Nice, c'est la perspective des âmes qui sont conçues comme des univers de grâce en expansion infinie, en capacité d'expansion infinie. Il a connu la pensée aussi de Teilhard de Chardin, il n'a pas beaucoup, c'est moins qu'on puisse dire, épousé la pensée de Teilhard de Chardin, mais dans son ouverture d'esprit aux sciences dures, à ce qu'il pouvait apprendre et comprendre et connaître des sciences dures, cette idée d'un univers matériel en expansion permanente et proche de l'infini, lui parlait. Parce que la physique, la métaphysique de Grégoire de Nice était une métaphysique justement de progrès et d'expansion. Et le fait de voir Dieu tellement grand, Dieu tellement vivant, apporte de la joie, apporte vraiment non seulement le repos, mais aussi la joie. Cette fête qui est le vrai repos. Tout cela, c'est l'idée d'un épanouissement entier de toute l'âme au soleil de Dieu. Un épanouissement et une expansion. Une dilatation de l'âme qui est un des grands fruits du don du Saint-Esprit. Le fait que la souveraine perfection existe déjà, que déjà en Dieu, la plénitude est donnée, le fait que la vérité soit précisément que Dieu est plénitude. Eh bien, tout cela va aider notre contemplation à plonger dans l'océan de l'être de Dieu, à plonger dans l'abîme de la vie divine. Et le fait que la perfection existe, la souveraine perfection, et non pas l'apparence extérieure des choses au niveau de laquelle nous pouvons vivre, tout cela nous aide dans la contemplation. Finalement, l'essence de la contemplation catholique, c'est que progressivement et silencieusement, cette immensité de Dieu comme réalité, de Dieu comme Trinité, devient pour nous plus réelle. Grâce à la contemplation, Dieu devient plus réel pour nous. Nous savons à quel point cette expérience peut être perturbante, déstabilisante, parce que plus Dieu devient réel, et plus la réalité de Dieu peut perdre un peu de son évidence, parce que c'est tellement réel, parce qu'il est tellement Dieu, nous n'avons plus de prise sur lui, et nous sommes dans une certaine ténèbres, dans une certaine obscurité. Cela, c'est un des effets de la vraie contemplation, que nos premières évidences doivent disparaître. Toute cette poussière des apparences va se dépouiller petit à petit de la consistance que nous lui donnons. Même Dieu, nous l'avions recouvert d'apparence. Mais quant à toutes les autres apparences, celles de la vie quotidienne, de la vie mondaine, tout ce qui est de l'ordre de la mondanité, tout cela va se dépouiller. C'est une confidence de Jean Danielou dans ses carnets spirituels des années 1940. C'est sa prière. Il demande à Dieu que l'aspect du monde se décolore à mes yeux. Que le monde se décolore à mes yeux parce qu'ils seront éblouis par le soleil du Verbe éternel. Celui qui par pure grâce scrute la lumière du Verbe éternel est envahi par la lumière du Verbe éternel, celui-là vit la décoloration du monde. Le monde devient terne, délavé, décoloré. Non pas qu'il soit méprisé, mais par comparaison, et là nous avons tout l'enseignement de Saint Jean de la Croix, qui bien sûr a porté du fruit dans l'âme si généreuse de Jean Danielou, non pas en soi, mais le monde est dévalué à cause de la valeur infinie de l'amour de Dieu, du mystère de la beauté et du mystère de la vie de la Sainte Trinité. Le monde se décolore. On peut dire, un peu pour résumer, que la contemplation est une attention silencieuse qui nous fait nous enfoncer dans la réalité. La contemplation, c'est cette attention silencieuse et amoureuse. Attention à Dieu. Être attentif à la présence de Dieu, à l'amour de Dieu, au mystère de Dieu. Et au contraire, l'agitation extérieure de notre âme chercherait plutôt à nous maintenir à la surface des choses. Il y a donc un antagonisme entre la contemplation et l'agitation extérieure. La réalité, la vraie réalité, c'est cette plénitude de Dieu. Cette plénitude par laquelle en lui tout existe. Et cette plénitude, c'est, nous le savons, grâce au Seigneur Jésus, la vie trinitaire elle-même. Je veux dire par là que le Père se communique totalement au Fils, en sorte qu'il donne au Fils la totalité de ce qu'il a, et qu'il épuise donc dans le Fils la possibilité d'aimer. Les mots sont difficiles et toujours à la limite. Il y aurait comme un épuisement de la part du Père. Le Père est épuisé, dans le plus beau sens du terme, par son amour pour le Fils. Et sa possibilité d'aimer va jusqu'au bout, même s'il n'y a pas de limite. C'est pour ça que nos mots sont tellement faibles, tellement impuissants. S'il y avait une limite en Dieu, le Père serait allé jusqu'à la limite de ce qu'il peut faire en matière d'amour en engendrant le Fils. Le Père communique tout. Le Père, il faut arriver à saisir ce qui peut être exprimé ici. Le Père s'épuise à aimer le Fils. Le Père se complaît dans le Fils d'une complaisance infinie. C'est donc une sorte d'épuisement qui est une béatitude, qui est un bonheur, le bonheur d'avoir tout donné. Là aussi, nous rejoignons tellement notre expérience quotidienne, particulièrement lorsqu'elle est transfigurée et portée par la grâce. Le bonheur d'avoir tout donné au prochain. C'est le bonheur des saints. Bien, ce bonheur des saints a son modèle, sa source, et reçoit sa force du mystère même de Dieu. Le bonheur du Père de tout donner au Fils. Le Fils est bien sûr la parfaite image du Père, la parfaite image de la perfection du Père, mais parce que le Fils reçoit toute cette perfection du Père, il fait la joie du Père. Recevoir ce que celui qui m'aime veut me donner. Et le recevoir comme il veut me le donner, et le recevoir dans la joie, dans l'Eucharistie, dans l'action de grâce, et dans l'adoration. C'est une chose à la fois mystérieuse et admirable que cette totale plénitude de Dieu, sans être divisée, est possédée ensemble par les trois personnes. C'est le mystère à la fois de l'unité et de la Trinité en Dieu. L'être de Dieu n'est pas divisé en trois personnes. C'est ce que nous essayons de dire quand nous disons que Dieu est un et trine. Et en même temps, l'être de Dieu est donné et reçu au sein de la vie trinitaire. Ce sont des choses dans lesquelles nous avons à entrer silencieusement. Non pas à comprendre, non pas à rationaliser, non pas à mettre dans des catégories, à mettre dans des concepts, dans des idées. Nous avons à entrer silencieusement dans ce mystère de don et de communion. Pourquoi faut-il le faire? Parce que c'est la nourriture profonde pour notre foi. Lorsque nous disons qu'une parole d'homélie a été nourrissante, combien plus notre méditation et notre contemplation de Dieu tel qu'il est nourrissante. Notre foi va être ainsi petit à petit introduite dans la réalité réelle de la vie de Dieu et même dans les caractères de la vie de Dieu. Ce qu'est la vie de Dieu. Et nous apprenons à vivre grâce à cette connaissance reçue du Saint-Esprit, reçue dans une infusion de lumière et de foi surnaturelle qui sont l'œuvre du Saint-Esprit. Nous apprenons à vivre comme Dieu veut que nous vivions. Dans le Fils, le Père donne tout ce qu'il a à donner. On peut, encore une fois, oser redire qu'il y puise ses possibilités d'aimer. Et cette surabondance d'amour va s'exprimer dans la vie de l'Esprit-Saint, dans cette communication qu'est la vie de l'Esprit-Saint qui unit le Père et le Fils, qui vient comme achever et recueillir le mouvement de la vie entre le Père et le Fils. Ce mouvement est d'abord un mouvement de communication dans le Fils, et ensuite nous pouvons utiliser le mot de recueillement dans l'Esprit-Saint. Le recueillement étant le rassemblement de ce mouvement qui a d'abord été un jaillissement. Il y a un jaillissement d'amour et de vie qui vient de la source qui est le Père et qui finalement semble s'achever dans le Fils, mais il y a ensuite un recueillement qui est en même temps un retour et on pourrait dire une sorte d'approfondissement, une espèce de, si on pouvait oser le mot, comme une synthèse entre le Père et le Fils, qui est la personne de l'Esprit-Saint. Communication, recueillement, qui finalement est un mouvement de donner, de recevoir et de retour au donateur. Il existe en Dieu ce retour au donateur. Nous ne faisons pas que recevoir, mais nous devons, petites personnes humaines, nous devons prendre conscience que nous recevons. Et prenant conscience que nous recevons, nous faisons retour au donateur, pour l'adorer, pour le louer, pour l'aimer. Eh bien, en Dieu, ce retour va exprimer combien la vie infiniment vivante de Dieu se suffit pleinement à lui-même, à elle-même, et s'accomplit en elle-même, sans avoir aucun besoin de procéder au dehors d'elle-même. Et s'il y a création, s'il y a rédemption, divinisation de créatures, ce sera pure gratuité, pure générosité. Et face à cette générosité divine, notre cœur doit se mettre à genoux et doit demander inlassablement la grâce d'être rendu capable d'un tel amour généreux, d'un tel amour totalement, exclusivement bienveillant, si Dieu le permet, si Dieu le donne, d'un amour désintéressé, d'un amour libre. La liberté de la Sainte Trinité dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la divinisation. Toute la liberté de Dieu. Et c'est par notre liberté, finalement c'est ce que va conclure Jean Danielou, c'est par notre liberté que nous ressemblons le plus à Dieu. Ressembler à Dieu. Nous savons bien que c'est la vraie vie morale. La morale, la bonne définition de la morale, c'est ressembler à la Sainte Trinité. Ressembler bien sûr au Seigneur Jésus, puisque c'est grâce à lui que nous savons comment être humain, comment être de vraies personnes humaines. Mais le Seigneur Jésus, dans sa vie humaine, est ressemblance de la vie trinitaire. Ce sont des choses qu'il est donc important d'entrevoir, parce que nous ne faisons qu'entrevoir, dans la mesure où notre vie sera une vie trinitaire, une vie de ressemblance de la Sainte Trinité. Qu'elle nous fera participer à la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons retrouver tous ces traits, tous ces caractères de la vie même de Dieu. Cette vie trinitaire sera à la fois une vie qui va nous jeter au dehors vers les autres. Parce qu'il y a ce mystère d'extase de la part de la Sainte Trinité pour nous créer, nous aimer et nous sauver. Et qui en même temps sera une vie de recueillement dans la suffisance de Dieu. Il y aura toujours le double mouvement, alors qui, dans le concret de l'existence, commence par le recueillement. Se recueillir en Dieu et ensuite se laisser propulser par Dieu, par le Seigneur et son amour vers le prochain. Et voyant la paix, la tranquillité de la vie trinitaire, parce que si Dieu est tellement vivant, il n'est pas vivant d'une façon excitée, d'une façon désordonnée, d'une façon brouillonne. Eh bien, nous-mêmes, notre vie sera le contraire d'une inquiétude et d'une agitation permanente. L'action, pour nous, devra être la surabondance d'une plénitude, et non pas une aliénation de nous-mêmes. Nous ne devons pas devenir différents dans l'action de ce que nous sommes dans la prière et dans la contemplation. Nous ne devons pas vraiment, nous le savons bien, quitter ni Dieu ni nous-mêmes quand nous nous mettons à agir. Notre vie va être la participation à la vie de Dieu qui nous unit à lui, qui nous unit même à cette totale suffisance de Dieu à lui-même, en même temps qu'à la totale communication que Dieu fait de lui-même à lui-même dans le mystère des personnes divines. Finalement, tout revient à cette communion vivante, comme tout procède de cette communion vivante. Mais le plus important ne peut jamais être l'agir. Dire que la personne humaine est faite pour l'action avant tout, c'est défigurer le mystère de la personne humaine. La personne humaine n'est pas faite pour l'action avant tout. Elle est faite pour l'amour. Elle est faite pour le recevoir et le donner dans l'amour. Et cela avec parfois l'apparence d'une totale inactivité. Recevoir l'amour vrai, l'amour fort, l'amour pur que nous donne notre prochain peut se passer dans une paix, dans une tranquillité, dans une inactivité qui paraissent absolues et totales. Il y a vraiment une hérésie de l'action, une hérésie de l'entreprise, de la construction, de la transformation du monde qui conduit à ne plus être ce que nous devons être dans le plan de Dieu. Cette vie de la Trinité, Dieu a voulu la communiquer. C'est toute l'Écriture qui nous l'affirme, et surtout le Seigneur Jésus, qui, c'est vrai d'une manière particulière en saint Paul et en saint Jean, nous le révèle et nous l'affirme. Cette béatitude, cette joie parfaite que possèdent les trois personnes divines, elles ont voulu, dans leur liberté divine, les faire partager à des libertés créées. Tel est le projet de Dieu, le dessein de Dieu, telle est la totale volonté libre de notre grand Dieu. C'est là le sens premier de la création telle que la Bible nous la fait découvrir et nous l'enseigne. Il y a là une révélation admirable qui justifie entièrement l'existence de la création. Je veux dire par là, affirme Jean Daniélou, que si vraiment Dieu n'avait créé des créatures spirituelles que pour les rejeter dans le néant après les avoir fait vivre quelque temps, si vraiment la création correspondait simplement à ce qu'est cette vie terrestre dans laquelle nous sommes, il est certain que ceci n'apparaîtrait pas digne d'un dessein d'amour et de sagesse. Ce n'est pas cohérent avec le mystère d'amour et de sagesse qu'est Dieu que d'imaginer que nous ne sommes faits que pour vivre dans le temps et sur cette terre. Alors, si par impossible les choses étaient ainsi, l'athéisme apparaîtrait comme une attitude qui irait de soi. Parce qu'alors la création serait comme une espèce de jeu gigantesque dans lequel les créatures seraient simplement comme des pions dont Dieu se jouerait, mais qui n'auraient pas une destinée digne d'elles. Si tel devait être Dieu, alors il serait urgent d'être athée, parce qu'il ne faudrait pas accepter un tel Dieu. Un Dieu dont nous ne serions que les pions ou les marionnettes pendant un temps. C'est tout l'opposé de la révélation de la Bible, de la révélation de l'Évangile. Donc, au contraire, dans la mesure où la révélation nous montre que c'est essentiellement pour associer des libertés à sa propre béatitude, pour les introduire dans sa joie infinie que Dieu a suscité des libertés créées, alors, au contraire, dans cette mesure-là, croire en Dieu devient une évidence. La Trinité a vraiment suscité ces libertés créées qui l'entourent de leur rayonnement, et c'est le monde des anges et le monde des hommes. Dans l'approche de Jean Danielou, un univers créé dans lequel il n'y aurait pas les anges, toutes les créatures spirituelles, serait un univers étriqué, beaucoup trop petit, petit joueur. Comment imaginer que Dieu soit petit joueur? Puisque les créatures spirituelles, purement spirituelles, peuvent exister, la générosité de Dieu ne pouvait pas s'arrêter à la création des personnes humaines. Et alors nous pouvons inverser, la générosité, la gratuité de Dieu ne pouvait pas s'arrêter à la création des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins, etc. Il y avait de la place pour les personnes humaines. L'origine même de la création est admirable. C'est l'amour. La fin de la création, c'est vraiment l'amour. Un amour entièrement désintéressé. C'est vraiment la révélation de ce qu'est le désintéressement. Dans le monde des créatures, il ne peut pas y avoir de désintéressement absolu et total. La créature est tellement pauvre en être qu'elle a besoin d'être aidée, qu'elle a besoin d'une récompense, qu'elle a besoin de recevoir quelque chose en retour de ce qu'elle fait comme effort, comme démarche d'accueil et d'ouverture. En Dieu seul, le désintéressement peut revêtir cette splendeur d'infini, d'absolu et de perfection. puisque Dieu n'a pas besoin de nous. Alors, son amour est désintéressé. C'est nous qui avons besoin de lui. Et en ceci, et c'est toujours intéressant de voir comment il faut affiner notre première façon de comprendre le mystère, en ceci, nous ne ressemblons pas à Dieu. Nous ne sommes pas à l'image de Dieu parce que nous avons besoin d'autres choses, d'autres personnes que nous-mêmes. Lui n'a besoin de rien, nous, nous avons besoin de lui. Et il a même voulu que nous ayons besoin des prochains, pas seulement de lui, mais des prochains pour arriver à notre perfection et à notre béatitude. Dans la création voulue, accomplie par Dieu, il y a une gratuité absolue. Notre existence a sa source première uniquement dans l'amour de Dieu, dans l'amour divin, dans Dieu qui est amour. Voici que la conséquence de cela est tellement belle, tellement saisissante. Nous n'existons que dans la mesure où nous sommes aimés. Mon existence est une des preuves de l'amour de Dieu. Je n'existe aujourd'hui, pour l'instant, que parce que Dieu est en train de m'aimer. Exister pour moi, dans mon être le plus intime, c'est être actuellement, juste maintenant, le terme d'un acte d'amour des trois personnes divines. Mon existence sur laquelle je peux revenir en me recueillant sur le fait que je suis en train d'exister, mon existence, c'est des trois personnes divines qui me communiquent leur être dans leur volonté de m'associer à leur vie. Voilà ce que sont en train de vivre les trois personnes de la Sainte Trinité vis-à-vis de moi. Elles sont en train de me communiquer l'existence en ayant la volonté de m'associer, moi, à leur vie divine. Et parce que elles sont en train de m'aimer, leur projet est en train de s'accomplir, j'existe et j'ai ma vocation à la vie éternelle. Je suis en train d'être appelé à la sainteté, appelé à la béatitude, appelé à la perfection d'être qui est en même temps une perfection d'amour. Monsieur Descartes avait tout faux. Non pas « je pense, donc je suis », mais « je suis, donc je suis aimé », ou encore « je suis aimé, donc j'existe ».
Chers auditeurs, c'était notre émission « Dieu tellement vivant », vous étiez avec le Père Nicolas Sautreau. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.